Le début de la paracha de Nitzavim nous présente un moment important dans l'histoire des Hébreux. Moshe Rabbeinu réunit l'ensemble du peuple pour leur adresser ses dernières recommandations. Et on a un moment où il réunit l'ensemble de la population hébraïque de cette époque. Et je voudrais faire un parallèle avec le Matan Torah, autre moment où tout le peuple est réuni, parce que d'une certaine façon, ces deux événements se ressemblent et ont quelques différences qui vont nous apporter un enseignement particulier. Au moment du Matan Torah, au pied du Sinaï, le peuple juif reçoit en quelque sorte sa mission. Il est dit dans le chapitre 19 de l'Exode que le peuple juif va être considéré par Akadosh Baruch Hu comme étant Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, une nation de prêtres et un peuple distingué. C'est dans cette révélation que sont donnés non pas l'ensemble des commandements, il n'y en a que 13 dans les Aseret HaDibrot, mais que sont données les règles du partenariat avec Akadosh Baruch Hu. Un certain nombre d'éléments viennent nous dire, pour que la relation marche, il faut que chacun sache quelle est sa place dans le partenariat, qu'il n'y ait pas d'infidélité, qu'il y ait de l'honnêteté, de la franchise et de la complémentarité dans le partenariat. On a donc là un moment essentiel où la relation démarre. Et pour que la relation démarre, les commentateurs nous disent, notamment Rashi, que le peuple était « keish echad belev echad » comme un seul homme avec un seul cœur. Donc il s'agit là d'une cohésion où en quelque sorte les différences individuelles sont gommées. Chacun fait bloc pour recevoir face à Akadosh Baruch Hu cette mission qui lui est confiée. N'est pas confiée à un individu, n'est pas confiée à Moshe Rabbeinu qui doit ensuite la partager avec les autres, elle est confiée à l'entité Am Israël qui lui doit être en mesure de remplir cette mission. Au moment de Nitzavim, tout le monde est assemblé. Mais là, le texte, Moshe Rabbeinu lui-même, dans le texte de Chumash, insiste sur le fait que chaque catégorie de personnes est présente. Il nous dit la chose suivante au chapitre 29, versets 9 et 10. Vos chefs de tribu, vos anciens, vos préposés, chaque citoyen d'Israël, vos enfants, vos femmes, l'étranger qui est dans tes camps, depuis le fendeur de bois jusqu'au puiseur d'eau. Toutes les catégories sont présentes. Pourquoi insister sur cette distinction alors que la dernière fois, on avait d'une certaine façon misé sur l'élimination des différences? Au moment où on est là, au bout des 40 ans, dans le désert, les Bnei Israël s'apprêtent à rentrer en Eretz Canaan, à en faire leur pays, à se répartir sur l'ensemble du territoire. Mais en entrant en Eretz Canaan, c'est aussi la fin de la période du miracle. La manne va arrêter de tomber, le puits de Myriam ne va plus suivre les Bnei Israël, les nuées s'arrêtent à la porte d'Eretz Israël. On est donc là, dans le concret de l'accomplissement de la mission. C'est maintenant que les 613 commandements peuvent être accomplis dans le désert. Tout un ensemble de commandements ne pouvait pas être accompli parce qu'ils n'étaient pas dans une vie normale organisée, ils étaient sous le règne du miracle. Donc là, on vient nous dire que pour accomplir cette alliance qui est faite avec Akadosh Baruch Hu, chacun doit être considéré pour ce qu'il est, de manière à ce qu'il puisse remplir sa mission et être responsable à l'intérieur du groupe. Il ne s'agit plus du tout ici de gommer les différences, mais de les mettre en valeur pour montrer qu'on a besoin de la totalité de ces individualités. On a besoin de l'ensemble du groupe, mais d'un groupe qui est diversifié, composé d'individus qui ne vont pas avoir ni la même mission, en quelque sorte, parce que certaines fonctions génèrent certaines mitzvot, ni avoir la même relation avec Akadosh Baruch Hu à travers l'accomplissement de la Torah. Dès lors, on passe dans une démarche de responsabilité. Chacun est responsable de ses actes, même s'il y a une responsabilité collective, mais ça commence par la responsabilité individuelle. Et à partir du moment où il y a responsabilité, l'individu doit être mis en face de ses choix. C'est ce que nous dit le texte. D'un côté, il y a la vie et le bien, c'est-à-dire la spiritualité, la vie spirituelle, le bien, la proximité avec Akadosh Baruch Hu. De l'autre côté, il y a la mort et le mal, c'est-à-dire l'enfermement dans la matérialité et le fait que l'individu, lorsqu'il va donner la primeur à la matérialité, va s'éloigner progressivement d'Akadosh Baruch Hu, jusqu'à ce qu'il risque de perdre le contact avec la divinité, il risque de perdre sa sensibilité au divin. Chacun est libre de son comportement, de son attachement, de la modalité de sa relation avec Akadosh Baruch Hu. Tant qu'un individu appartenant ou issu du peuple juif peut encore se considérer comme Israël, alors il a la possibilité de revenir, de reprendre en main sa responsabilité et sa mission à l'intérieur du peuple. L'ensemble des éléments du peuple, c'est-à-dire l'ensemble des personnalités, hommes, femmes et enfants qui constituent le peuple juif, ont chacun une mission et un rôle à jouer spécifique. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, propose ce choix de donner la priorité à la spiritualité parce que c'est ce qui va leur permettre de vivre, vivre physiquement, mais vivre spirituellement. La matérialité n'est pas à éliminer, elle est à transformer en la consacrant à la spiritualité. Dès lors, on se trouve dans une situation où il va nous falloir choisir entre ces deux voies. Personne ne choisit complètement l'une de ces voies sans l'autre. Mais la Gemara dans Sota 47a nous donne une indication à propos de l'éducation. Elle nous dit vis-à-vis de chaque enfant, il nous faut le repousser de la main gauche et le rapprocher de la main droite. C'est là une mesure pédagogique importante où il faut, par la main gauche, qui est le symbole de la rigueur, du din, donner des limites, par la main droite, donner de l'affection, de la valorisation, de la bienveillance. Il s'agit de faire les deux, non pas de manière séparée, mais à la fois, et on y reviendra un petit peu plus loin. Ce schéma-là se retrouve en fait dans notre relation à la matérialité et à la spiritualité. La matérialité, c'est le monde de la main gauche, parce que la matérialité, c'est le monde de la distinction, c'est le monde de la limite, de la différence, de la séparation. Mais en même temps, cette séparation n'est pas que négative. Elle permet à chaque élément séparé des autres d'exister. C'est ce qui se passe pour le peuple juif. Lorsque le peuple juif est consacré par Akadosh Baruch Hu, c'est positif, c'est une mission qui est confiée, mais forcément, cette mission ne peut plus se mélanger avec la mission des autres peuples. Chaque peuple a sa mission. Donc on est consacré, mais en même temps nécessairement séparé. Ça ne veut pas dire une séparation absolue entre les individus, mais une séparation parce que nous n'avons pas le même objectif et la même perspective dans la vie, donc les actions peuvent être différentes. Dans la démarche, qui est la première de séparation par rapport à la main gauche et à la matérialité, c'est toute la période que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La période du mois de Elul, de Rosh Hashanah et de Kippour. On est en train de mettre à distance la matérialité. Parce que la matérialité, lorsqu'elle n'est pas contrôlée par la spiritualité, risque de nous entraîner loin de Dieu et nous donne de l'obscurité spirituelle et nous donne de la dépendance à nos instincts. tout l'enjeu du début du mois de Tichri, c'est l'enjeu de la main gauche. Distinguer ce qui ne va pas de ce qui va bien et essayer de réparer ce que l'on a raté, ce que l'on a omis de faire, de réparer notre égarement pour essayer de revenir vers le monde de la positivité et de la spiritualité. Lorsque ce travail a été fait, on peut redémarrer l'année d'un bon pied, parce qu'avec le processus de Teshuvah, on essaye d'éliminer les conséquences négatives de nos égarements. Et Dieu est prêt à ce nouveau départ pour chaque individu. Lorsqu'on arrive à Sukkot, Sukkot, c'est la fête par excellence. C'est la fête de la joie. C'est la fête de la spiritualité. On n'est plus en train de séparer, on est en train de réunir. Et qu'est-ce que l'on réunit ? On réunit des hommes, des femmes, des enfants dans une même soukha. On réunit les arba minim, ces quatre espèces de plantes, le loulav, l'étrog, le hadas et la harava, et on les met ensemble. Mais cette réunion est une réunion qui va nous permettre de faire la synthèse entre la séparation et le rapprochement. Le rapprochement de la spiritualité ne doit plus être, maintenant qu'on est après le Matan Torah, dans l'effacement des différences, mais dans la réunion des individualités malgré leurs différences. C'est ce que l'on a dans ce bouquet de loulav des quatre plantes. On a quatre plantes qui n'ont rien à voir l'une avec les autres, qui ont des caractéristiques différentes. Certaines sont parfumées, d'autres ne le sont pas. Certaines peuvent se consommer, d'autres ne le peuvent pas. Mais la mitzvah se fait lorsqu'on les réunit. On ne les mélange pas. On ne fait pas une sorte de compote de l'ensemble de ces quatre plantes. On les garde dans leur individualité, chacune de ces plantes ayant ses caractéristiques, ayant ses critères de cacheroute. Il faut avoir trois feuilles pour l'un, deux feuilles pour l'autre par niveau. L'étrog ne doit pas avoir de taches, mais on ne se préoccupe pas des taches sur le loulav, sur la feuille de, sur le palmier, etc. Chaque individualité a ses caractéristiques, a sa mission, a ses qualités et ses faiblesses. La mitzvah se réalise en les réunissant. Parce que c'est en les réunissant, pour faire une mitzvah, qu'on va consacrer leur matérialité à la spiritualité. On est donc bien passé du Matan Torah, où il ne s'agissait pas de montrer son originalité pour accepter la parole d'Akadosh Baruch Hu, à la paracha de Nitzavim, où Moshe Rabbeinu réunit les individualités différemment. Les temps sont passés. Il n'y aura plus de Matan Torah. Il pourrait y avoir constamment des Nitzavim, parce que c'est notre mission permanente d'arriver à se réunir dans notre monde, non pas malgré nos différences, mais justement parce qu'on est différent, on va essayer de se réunir pour s'enrichir. Si dans ces quatre plantes, il y en a une qui va mal parce qu'elle est desséchée, parce qu'elle n'est pas conforme, on ne peut pas faire la mitzvah. Donc on va réunir chacun tel qu'il est, dans le mieux de ce qu'il peut être, pour ensemble faire une mitzvah, c'est-à-dire s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Par la mitzvah, je m'élève, je donne un sens à ma matérialité, je choisis la vie, c'est-à-dire le bien pour l'homme qui est d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. J'ai choisi de sortir dans ma soukha pour sortir de ma protection matérielle. Je vais dans un endroit où je vais trouver que de la spiritualité. Je me plonge dans la soukha comme on pourrait se plonger dans un mikvé. C'est-à-dire, je suis tout entier dans cette cabane avec son toit de feuillage, avec mes arba minim, mes quatre plantes dans les mains, pour dire à Akadosh Baruch Hu, je suis au rendez-vous. Je me sens responsable de l'avenir du peuple juif, comme chaque membre du peuple juif doit se le dire. J'ai compris que ce n'est pas par l'uniformité que l'on gagne, mais c'est par la réunion des dissemblances. J'accepte cette différence et j'essaye d'en faire un élément de joie au lieu de me lamenter sur les différences entre les individus ou sur les différences d'opinion. Je vais me renforcer autour de cette unité. Encore plus dans une période comme nous vivons actuellement, où on voit bien que nos ennemis savent s'unir contre nous. Et nous, parfois, on oublie de s'unir entre nous pour pouvoir réussir à leur résister le mieux possible. Or, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Il ne va pas se révéler au Sinaï une nouvelle fois, mais il attend de nous que chacun de nous prenne en main, avec sa différence, la volonté de s'unir pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.